Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 10h. Place à l'information avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Flavie, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce samedi matin, deux nappes d'hydrocarbures menacent la Corse. Le préfet vient d'activer le plan Paul Martère. On en reparle dans un instant. Un gros craquage hier soir sur l'esplanade des Invalides à Paris. Une fête sauvage en présence de plusieurs centaines de personnes. Dans ce journal également, Djokovic qui remporte son duel contre Nadal. Un match qui restera dans la légende de Roland-Garros. Et puis le rugby, Biarritz contre Bayonne. Un duel fratricide pour une place en top 14. La météo, Valérie Quintin, très chaud. Aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, il va faire chaud, il fera beau la plupart du temps. On a un petit peu de grisaille ce matin entre le Finistère et le Nord, mais aussi dans le Sud-Ouest, entre le Pays Basque, le Bordelais, le Midi Toulousain. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps avant que toute cette grisaille se dissipe. Ensuite, du soleil donc pour tout le monde cet après-midi, avec un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône, et puis un petit risque d'averses orageuses en fin de journée sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Tout cela avec des températures qui s'envolent. 35 degrés attendus à Nîmes, 32 à Mont-de-Marsan, 31 à Toulouse. Il fera 27 degrés à Metz et Belfort, 26 à Paris, 23 pour Amiens.
Merci Valérie. Et d'abord la Corse, donc, menacée par un risque de pollution maritime. On vient de l'apprendre, Hortense Crépin.
Oui, deux nappes d'hydrocarbures de 35 km de long. Ça se trouve entre Leria et Solenzara, à 9 km des côtes. Des lieux très fréquentés par les touristes en Haute-Corse. D'après le préfet, il s'agirait d'un dégazage. Mais vu la taille de la nappe et la nature du produit, il y a peu de chances qu'il y ait, comme d'habitude, une dilution naturelle de cette pollution. Conséquence, le plan Polmar est déclenché, ce qui va permettre d'envoyer des unités et du matériel spécifique anti-pollution. La préfecture évalue en ce moment l'étendue des dégâts avec des photos prises par un Falcon de la Marine nationale.
On va continuer de suivre ça avec vous, bien évidemment. Hortense Crépin, merci.
RTL, le 10h, Alexandre de Saint-Aignan.
Et Valérie Quintin tout à l'heure nous promettait du beau temps. On va vérifier ça tout de suite sur le terrain, direction Royan, la côte atlantique, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Juliette Chénion, vous nous confirmez, c'est une belle journée qui commence.
Oui, ici à Royan, tout ressemble à un samedi de plein été. Tout le monde est en short, t-shirt, sandales au marché. Et avec ce grand ciel bleu, Jean-Paul a le sourire sous son masque.
Non mais, vous avez vu le temps qu'il fait? C'est extraordinaire, magnifique!
On vient le matin de bonne heure, plus calmement, à la fraîche.
On laisse Jean-Paul faire les courses, Jean-Baptiste lui repart, le chariot plein.
Et donc on a le chariot qui est plein de langoustines, de crabes, un gros plateau de fruits de mer à midi.
Ça ressemble un peu aux vacances là déjà.
Ah bah carrément, c'est les vacances, ouais. Heureusement, tout le monde en a besoin.
C'est le programme aussi pour Sylvie devant le stand de melons et d'abricots.
Je vais sûrement aller faire un petit tour à la plage en rentrant chez moi tranquillement là, et puis ensuite je vais faire un petit barbecue.
Pour l'instant, il n'y a presque personne sur la plage principale, quelques sportifs et Charlotte.
C'est ça, on fait une petite balade avec les enfants. Je pense qu'on ira se baigner un petit peu et boire un verre en terrasse sûrement.
Les serveurs qui s'activent justement en terrasse et se préparent à une grosse journée.
Bah on espère se faire exploser.
Il devrait faire jusqu'à 29 degrés aujourd'hui à Royan.
Et ben voilà, 29 degrés à Royan. Merci Juliette Chénion en Charente-Maritime pour RTL. Il fait beau, il fait chaud et la France est toujours sous couvre-feu. Une restriction qui doit s'arrêter dans un peu moins de 3 semaines maintenant, le 30 juin. Certains n'ont visiblement plus envie d'attendre. Dernier exemple en date. Plusieurs centaines de personnes qui se sont retrouvées hier soir à Paris, esplanade des Invalides, en extérieur certes, mais la plupart du temps sans masque et sans respect des gestes barrières. Dans un premier temps, la police a laissé faire. Et puis, à 23h, les forces de l'ordre ont reçu l'ordre d'intervenir pour disperser la foule et faire respecter le couvre-feu. Quelques affrontements, des jets de projectiles, la police a répondu par du gaz lacrymogène. Alors c'est vrai qu'après un an de contraintes, quand on regarde les chiffres de l'épidémie aujourd'hui, il y a de quoi être optimiste. Désormais, moins de 5000 nouveaux cas par jour, la fréquentation des hôpitaux continue sa baisse et la vaccination qui avance à grands pas. On devrait passer le seuil des 30 millions de Français vaccinés dès ce week-end, avec quelques jours d'avance sur l'objectif fixé par le gouvernement. 30 millions, ça veut dire 57% de la population adulte qui a reçu au moins une première dose. Mais désormais, la vaccination ralentit, sans compter que quand on regarde chez nos voisins britanniques, par exemple, il y a la menace du variant indien, le variant Delta. Pour Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France, ça n'est pas le moment de se relâcher.
Le côté préoccupant, c'est la couverture vaccinale qui stagne chez les seniors et qui n'est pas suffisante pour nous protéger dans l'avenir d'une recrudescence des formes graves si le virus reprenait une dynamique à la hausse. Et puis bien sûr, la menace, je crois que le mot n'est pas trop fort. que représente ce nouveau variant Delta qui est chez nous. Pour l'instant, on arrive à circonscrire, mais personne ne peut dire ce qu'il va en advenir dans les prochaines semaines. Et donc, il faut garder à l'esprit cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nous. Donc voilà, le message, il est difficile parce qu'en même temps, on a de très bonnes nouvelles qui pourraient en elles-mêmes conduire à dire « ça y est, on est sauvés », mais non. Il faut éviter à tout prix ce risque dans les semaines à venir.
Des propos recueillis par Agathe Landais pour RTL. Dans un instant, Nadal, Djokovic, une demi-finale de Roland-Garros dont on risque d'entendre parler encore pendant longtemps.
RTL Matin. RTL, le 10h, Alexandre de Saint-Aignan.
Et la suite du journal à 10h07. C'est bien simple, Novak Djokovic a réussi ce qu'on pensait être redevenu impossible, à savoir battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Une demi-finale spectaculaire avec un niveau de jeu stratosphérique. L'Espagnol, tenant du titre, déjà vainqueur 13 fois sur la terre battue parisienne, à tel point que sa statue géante a été installée à l'entrée du court central. Mais hier soir, le Colosse a visiblement trouvé plus fort que lui. Au terme de 4 sets et plus de 4 heures de jeu, c'est son meilleur ennemi, Novak Djokovic, le Serbe numéro 1 mondial, qui a fini par l'emporter.
C'était sûrement le plus grand match que j'ai joué ici à Paris, c'est sûr. Aussi le match avec la plus belle atmosphère, ambiance. Mais pour tous les deux joueurs, le soutien était incroyable. Merci beaucoup, vous étiez vraiment fantastique. Merci.
Voilà, Novak Djokovic qui remercie les supporters. L'histoire retiendra également que pour ce match exceptionnel, le gouvernement a accepté de lâcher du lest. Normalement, les spectateurs sont censés évacuer le stade avant 23h, à l'heure du couvre-feu. Mais les autorités du tennis, la fédération a reçu in extremis l'autorisation du gouvernement pour que les spectateurs puissent assister à la fin du match. Résultat, ça chantait « Merci Macron » hier soir dans les tribunes. La finale verra s'affronter demain Novak Djokovic et le grec Stefanos Tsitsipas. Au programme du jour, la finale dames entre la russe Anastasia Pavlyuchenkova et la tchèque Barbora Krejčíková. À suivre également en parallèle la finale du double cet après-midi avec deux Français, Mahut Herbert, c'est un peu plus facile à prononcer, qui vont tenter de décrocher leur deuxième titre à Roland-Garros. Ils seront opposés au Kazakh Bublik Golubev. Du rugby à suivre également cet après-midi avec un derby savoureux, Biarritz contre Bayonne, Denis Granjou, les deux clubs voisins qui vont s'affronter pour une place en top 14.
Oui, c'est vrai, deux ans sans se rencontrer sur le rectangle vert, ça a manqué terriblement aux supporters. Et pour s'en convaincre, j'ai promené mon micro d'abord dans les rues de Bayonne où j'ai rencontré Beignat.
Biarritz, ils peuvent aller porter au Rocher de la Vierge, les cierges et tout. Bayonne gagne. Que d'un point, mais on s'en fout, c'est gagné.
Beignat, qui se fait l'écho d'un sentiment largement partagé par les supporters de l'aviron bayonnais.
Est-ce que Biarritz, c'est vraiment le Pays Basque ?
Oui.
La réponse immédiate de Madame le maire de Biarritz, Maïder Arostegui.
Ça fait partie des petites gauloiseries, des petites pignes, comme on dit, qu'on se met régulièrement. Mais je pense que l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est derrière tout ce que véhicule le rugby.
Le mot de la fin au légendaire pilier droit du Biarritz olympique, qui a débuté sa carrière à l'aviron bayonnais, Pascal Ondartz.
Quand je jouais à Bayonne, je gagnais tout le temps. Et quand je jouais à Biarritz, je ne perdais jamais. Je préfère jouer un derby Biarritz-Bayonne qu'avoir une sélection en équipe de France. C'est magnifique.
Magnifique, mais hélas, un retentissement en sourdine pour ce 112e duel entre Biarritz et Bayonne. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques n'a pas autorisé de rassemblement public pour suivre ce match en direct sur les écrans géants, que ce soit dans les rues de Biarritz ou dans les rues de Bayonne.
Denis Granjou pour RTL. Hier soir, le Racing 92 s'est qualifié en demi-finale du top 14 après avoir battu le Stade français 38-21. Le Racing 92 qui affrontera La Rochelle vendredi prochain connaîtra ce soir le dernier demi-finaliste, Bordeaux-Bègle ou Clermont. Le vainqueur de ce duel affrontera ensuite le Stade toulousain. Un mot de football également, l'Euro. Le début de l'Euro et l'Italie qui a battu facilement la Turquie 3-0. La suite des matchs cet après-midi, Pays de Galles-Suisse à 15h, Danemark-Finlande à 18h. Et Belgique-Russie à 21h. Pour rappel, les Bleus joueront leur premier match mardi soir face à l'Allemagne. Toutes les dernières infos sur l'Euro et sur l'équipe de France est à retrouver sur RTL. On refait le match à partir de 18h30. 30 et RTL Foot spécial Euro entre 20h et 23h. Direction l'Algérie pour terminer ce journal. C'est jour de vote sur place, les élections législatives, avec une grande inconnue en ce jour de vote, Rabah Ghassi, la participation.
Malgré un taux d'abstention record aux élections de 2019 et de 2020, le régime algérien est déterminé à appliquer sa feuille de route. Les arrestations et les poursuites judiciaires contre les militants et les journalistes se multiplient et les marches du Hirak, le mouvement populaire algérien responsable de la démission de Bouteflika en 2019, sont de moins en moins tolérées. Maître Benlahraj Zakaria, l'un des principaux avocats du Hirak.
Nous comptons plus de 214 détenus d'opinion, y compris un avocat qui est incarcéré jusqu'à aujourd'hui à la prison de Tbessa. Maintenant, ceux qui pensent que le changement viendra à travers le vote, ils doivent assumer leur choix aussi.
Pour Zeki Hamouli, militant au parti Jil Jadid, le Hirak a atteint ses limites, faute d'une réelle organisation.
Quand on fait la chaise vide, on laisse des personnes comme ceux de la précédente législature prendre le pouvoir. Ça rend tout boycott absolument inutile.
Quelques 1500 listes, dont la moitié s'affichent comme indépendantes, sont en lice pour ce scrutin.
En Algérie pour RTL, Rabah Ghassi. Les courses à Vincennes cet après-midi pour le Quintet. Les pronostics, le 5, le 11, le 7, l'As, le 10, le 13 et le 8. La dernière minute de Dominique Cordier, c'est le numéro 13. Formidable mec. Il est 10h, bientôt 13 minutes sur RTL. Et c'est l'heure de retrouver Jean-Sébastien Petit-Demange, Louana Belmondo et vous, Jean-Michel Zeka, RTL.